Ah, une chanson d'abord. Qu'est-ce qu'on passe? Racaille de Kerry James.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Racaille! On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher.
Racaille!
On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber.
Racaille!
Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs kermesses.
Racaille!
Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités.
Racaille!
La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines.
Racaille!
On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse. Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés, ce sont les mecs de cité qui te traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous.
Racaille.
Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention.
Racaille.
Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS.
Racaille.
À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat.
Racaille.
Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas.
Racaille.
Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée.
Racaille.
Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil.
Racaille.
Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. C'est putain de bête, parce que la banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous.
Racaille.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance.
Racaille.
Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne.
Racaille.
On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez.
Racaille.
Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire.
Racaille.
Les plus riches connaissent le jeu jouissent de niche fiscale. Les petites PME croulent sous les charges sociales.
Racaille.
Radar, on paye. Péage, on paye. Pollution, on paye.
Racaille.
Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique?
Racaille.
Payé pour propager sa haine. Semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table.
Racaille.
Incapable de gouverner, vous divisez.
Racaille.
Incapable de rassembler, vous stigmatisez.
Racaille.
Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée.
Racaille.
Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar.
Racaille.
Votre jeu est trouble.
Racaille.
Votre discours est double.
Racaille.
Au pays dit des droits de l'homme.
Racaille.
L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye?
Racaille.
La rue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop,
Vous appelez ça de la musique nègre. J'suis en Inde, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Ils ont travesti le RAP. Je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité. Ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera bouter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis Lettre à la République.
Salut, salut! J'ai une compilation de bouts de texte à vous proposer, des trucs que j'ai lus pendant cette dernière période coronesque. J'ai pas mal lu, des trucs que j'avais mis de côté depuis des mois, voire des années, en me disant un jour j'aurai le temps. Bah là, j'avais le temps. Faut que je dise que je me suis pas en premier lieu tournée vers les livres, j'ai d'abord été voir les séries. J'ai maté des séries dont je citerai pas les noms parce que je vois pas franchement l'intérêt. Et le temps passait vite, jusqu'à ce que j'ouvre un livre qui m'a un peu remué. Il était question d'une étude scientifique qui tentait d'appréhender la dépendance aux technologies de la télécommunication. Ça disait pas où et quand ça avait lieu, mais ça disait ça. Il y a eu une étude de 68 adolescents entre 12 et 18 ans qui étaient volontaires pour passer 8 heures sans aucun moyen de télécommunication. Sans internet, sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision, sans radio. Pendant ces 8 heures, ils avaient le droit de faire d'autres activités comme lire, écrire, faire de la musique, coudre, chanter, se promener, etc. Sur les 68 personnes, seulement 3 ont réussi à tenir les 8 heures. 3 participants ont décrit des envies suicidaires, 5 ont eu des crises de panique, 27 ont souffert de symptômes comme des nausées, des sueurs, des vertiges, des maux de ventre et des bouffées de chaleur. Et tous ont décrit des sentiments comme la peur et l'angoisse. Et les auteurs du livre ajoutent qu'il s'agit là, selon eux, de symptômes classiques d'un sevrage. Alors j'ai lu et relu ce passage pour être sûr d'avoir bien compris. Les jeunes ne savaient pas passer 8 heures sans être connectés. Ils étaient addicts, physiquement en souffrance, après un court moment sans connexion. J'ai refermé le bouquin, j'ai allumé ma série et j'ai tenté d'oublier cette révélation. Le lendemain, j'ai eu quelques difficultés à allumer l'ordinateur pour écouter 39.9. Une pensée m'obsédait, et si j'étais addict moi aussi? Et si, pas au bout de 8 heures, mais au bout de plusieurs semaines, plusieurs jours, si j'avais pas d'ordi, à quoi ressemblerait ma santé mentale? Je croyais me tenir éloigné de l'addiction en refusant le téléphone portable, mais quelle était ma dépendance réelle à la technologie? J'ai sorti de ma bibliothèque les livres qui avaient trait de près ou de loin au sujet, et j'ai lu, et je lis encore d'ailleurs. Je télécharge une fois par semaine vos émissions et je les écoute quand me prend l'envie de me lancer une série, ou bien je lis. Je lis d'abord « Voyage vers l'abîme, réflexion sur le technomonde » publié chez Ouria en mai 2019. Disons que c'est une entrée en matière théorique dans une analyse radicale anarchiste. J'avais envie de me confronter à cette matière-là pour commencer. Bon, je vous fais une traduction perso parce que j'ai pas la version française sous les yeux. Cette troisième phase de l'industrialisation présente les caractéristiques d'un virus. Elle n'est plus le troupeau de buffles de l'industrialisation qui devient gigantesque, attaque et rase tout ce qui se trouve sur son chemin. Elle n'est plus le nuage d'insectes des technologies de l'information et de la communication qui, après le passage des buffles, grouille dans les champs dévastés et étend le réseau de communication à tout le territoire. Le projet du pouvoir rappelle aujourd'hui plutôt un virus. Il s'implante partout, modifie les caractéristiques de chaque élément, de chaque organisme, installe une gouvernance qui est à la fois invisible et toujours présente. Dans un genre un peu moins critique radical de la technologie, dans un style plus proche du sensible et du vécu, plus proche de du subjectif, moi j'avais envie de vous lire Starhawk, un bout en tout cas de Starhawk, Révélo obscur, femme, magie et politique. C'est un bouquin que j'avais envie de lire depuis longtemps, que j'ai pas vraiment fini, mais il y a des bouts qui m'inspirent déjà beaucoup. Et à ça, page 40, ce que j'avais envie de vous lire. J'appelle cette conscience mise à distance, car son essence est de nous faire voir nous-mêmes à l'écart du monde. Nous sommes à distance de la nature, des autres êtres humains, et même de certaines parties de nous-mêmes. Nous voyons le monde comme constitué de parties divisées, isolées, sans vie, qui n'ont pas de valeur par elles-mêmes. Elles ne sont même pas mortes, car la mort implique la vie. Parmi les choses divisées et sans vie, les seules relations de pouvoir possibles sont celles de la manipulation et de la domination. Elles sont même pas mortes, car la mort implique la vie. Ça me rappelle cette brochure de Breakdown Edition. Ça s'appelait Laissez-moi mourir. Laisse-moi mourir. Panda, technologie et fin du monde. Je vous en lis un bout. Voilà, c'est page 6. Au-delà d'une simple préservation de la vie humaine, cette époque se fait aussi un devoir de préserver stérilement tout ce que la civilisation humaine a détruit. Il suffit de regarder les zoos, les projets de préservation, l'imposition du désir de l'humanité de vivre pour toujours sur des espèces qui auraient, à l'heure qu'il est, cessé d'exister avec joie si ce n'était par notre interférence. Bon, là, je vous passe la parenthèse sur les pandas. Tout doit vivre. Tout doit vivre pour toujours, quel qu'en soit le coût ou les conséquences. La mort est quelque chose auquel on peut échapper. La qualité n'a pas d'importance, la continuation est la clé. Et dans tout ça, personne ne semble poser la plus simple de toutes les questions. Pourquoi ? Pourquoi une vie devrait-elle durer éternellement ? Pourquoi avons-nous besoin d'exister indéfiniment ? En ne se posant pas cette question, l'humanité se dirige vers une mort bien plus vraie, plus réelle que la fin corporelle d'un seul et unique être. La mortalité est ce qui crée la possibilité de vivre, réellement vivre, vivre sans cage ou boîte de pétri, vivre dangereusement, vivre au risque de mourir. Sans la mort, il ne peut y avoir de vie. Le maintien de la vie au prix de vivre, en sécurité et protégé des dangers de l'extérieur, se maintient contre des confinements qui resserrent encore et encore ce que vivre peut signifier. La civilisation tout entière devient une machine de maintien en vie, et en échange, on accepte d'exister dans un état totalement comateux. C'est un texte écrit en 2019 et ça me parle. Tenir à distance la peur de la mort, la peur de la tôle, la peur de la maladie, pour tenter de vivre libre, sans crainte. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé lire le texte d'Andrea, regroupé dans « Plutôt mourir que de perdre sa vie », une brochure. On est en 1990, elle est en lutte contre un cancer depuis des mois, et elle arrête les traitements. La médecine, l'hôpital, la dépossède de sa vie, de ses choix. On décide à sa place de ce qui est bon pour elle, et elle n'en peut plus. Elle arrête, elle rentre chez elle. Ça veut dire qu'elle va crever, mais elle s'est fait à l'idée depuis le temps. Elle va crever, et elle va décider de où et comment. C'est sa vie, et elle a lutté toute sa vie pour la liberté. Alors elle veut mourir librement, tout simplement. Bon, j'aurais bien cité toute la brochure, mais je vous ai sélectionné un petit bout qu'elle écrit 9 mois après l'arrêt du traitement. En fait, il n'y avait pas à proprement parler de choix. où je me considérais comme un cobaye, où je m'évadais et laissais tout ce petit monde en plan. J'avais une autre ambition dans ma vie, je ne me laisserai certainement pas priver de celle de ma mort. Quand il n'y a plus le choix, la mort est au bout de toute façon. Il est urgent d'en faire un. L'humanité est un risque à courir. Après une telle décision, je fus étonné de la sérénité qui suivit. Ce qui avait été refoulé se libérait et amenait à la surface une étonnante énergie sur laquelle je ne comptais plus. J'étais enfin en accord avec moi-même. Je retrouvais la liberté, et cette liberté ne cherchait qu'à s'étendre de jour en jour. Je venais de prendre la seule décision humainement concevable. Le rapport au temps, à la vie... Je résiste pas à l'envie de vous lire un extrait de « Moi, Jean Gabin » de Goliarda Sapienza. On est dans les années 30, en Sicile. Goliarda a une dizaine d'années. Elle passe ses journées entre la rue et le cinéma où elle ne se lasse pas d'observer Jean Gabin. Un jour, elle demande au marionnettiste de lui parler des mains de ses marionnettes. Elle le harcèle pour qu'il réponde à ses questions. Lui, il reste plutôt énigmatique. Tu es destiné au futur, Goliarda, à des entreprises, à des arts différents. Tu n'as rien à voir avec notre mystère. Nous, notre langue et nos histoires sont destinées à mourir. Mais certaines choses, vu que tu es une fille de fidélité et de souvenirs, je veux te les dire. Sur les mains aussi, commandante Torre? Aussi, mais doucement, avec calme. Tu vois, comme tu presses les temps, tu veux courir, tout savoir, tout attraper d'un coup. Je ne te le reproche pas, mais par la logique du temps, tu t'es détaché de nous et tu t'en détacheras de plus en plus. C'est le destin, l'histoire le veut. Tu es né quand déjà les automobiles filaient vertigineusement dans ces ruelles étroites, quand le ciel avait déjà été blessé par les ailes impitoyables des aéroplanes, quand pour avoir un soleil comme deux jours, il n'était plus besoin d'attendre toute une nuit, mais il suffisait de tourner un petit interrupteur. Tu ne le croiras pas, mais pour les gens comme moi, tout cela plonge encore dans l'étonnement et la confusion. Je pleurais presque, ou était-ce la poussière de mes yeux qui me faisait pleurer? Cette voix pressentait la mort, celle de mon père et de Maria, et peut-être de mes frères et sœurs, eux aussi étaient tellement plus grands que moi. Carlo, qui était le plus jeune, était déjà un adolescent à ma naissance. Et Nunzio? Oh non, commandant Torre, je vous en prie, ne parlez pas ainsi. Vous et Maria ne devez jamais mourir. Que disions-nous, Goliarda? Ah oui, nous parlions des marionnettes et du milieu dans lequel elles sont destinées à mettre en acte leur passion. Moi, comme mon grand-père et mon père, je sculpte leur visage. Et dans leurs traits, je fais en sorte qu'on entrevoie leur âme. Comment est-ce que j'ai appris ça? Avec l'œil et le souffle, en épiant jour après jour le souffle et les pensées de mon père quand il faisait les mêmes gestes, en écoutant le battement de son cœur, quand, mettons, il colorait un grand œil étoilé, en respirant la sueur de ses muscles quand, avec effort, il poussait les marionnettes sur la scène et les faisait marcher. Puis nous allions avec lui à la campagne. Oh, ne crois pas que nous allions loin, on n'avait pas le temps d'aller loin, et puis alors il suffisait de sortir de la Civita, de traverser la ville de marbre et de briques pour trouver tout de suite les champs de blé, les plantes cultivées. Avec lui, j'ai appris à regarder la nature. Tout est dans la nature, on n'a besoin de rien inventer, il suffit de la regarder fortement et puis de la refaire sur l'étoile. Quant à saisir l'âme des hommes, c'est la même chose, il suffit d'écouter leur voix, leur récit, suivre le regard, un pli de la bouche, la courbe d'un cou, pour entrer en eux et leur dérober l'âme et les pensées, y compris les plus secrètes qu'eux-mêmes ne connaissent pas, mais qui sortent, si on sait se taire et bien écouter, des pauses et des réticences de leur voix. Bon voilà, ma petite contribution touche à sa fin. J'ai pas fini de lire, et j'ai passé bien plus de temps que j'aurais voulu sur l'ordinateur rien que pour mettre en forme ce petit son-là. Je suis contente de vous faire passer quelques lectures, ne serait-ce que parce que la télécommunication c'est pas mon truc en ce moment, et il y a du monde par chez vous qui écoute cette radio, et qui saura me reconnaître. J'aimerais vous embrasser, vous faire des câlins. Là, c'est pas possible. Alors, je vous envoie plein de pensées et une petite musique.
An adder wrapped its neck around me. An adder wrapped its neck around me. The serpent in its posture is draining life from me. Another wrapped its neck around me. There is water at the bottom of the sea. There is water at the bottom of the sea. Beneath the plastic islands and white chemical stream, there is water at the bottom of the sea. I ask for I asked for water and they gave me gasoline. They said gasoline's expensive and water's often free. I asked for water and they gave me gasoline.
Thank you. Another wrapped its neck around me.
Et merci pour cette contribution. Peut-être que je vais. Merci déjà. Et peut-être que je vais redire vite fait la biblio que tu nous as lu. J'ai pas tout compris, par exemple, le titre du livre de Starhawk. J'ai pas compris lequel c'était. Mais Starhawk, ça s'écrit Starhawk, je pense. Il y avait aussi un extrait d'un bouquin de Andrea qui a été publié aux éditions du Bout de la Ville et qui s'appelle Andrea. L'auteur ou l'autrice du livre Moi, Jean Gabin, c'est Goliarda Sapienza. Et tu nous as parlé aussi d'un livre qui s'appelle Voyage vers l'abîme aux éditions Ouria. Et est-ce que j'oublie un truc? Ah oui, il y avait une brochure. Là, vous retrouverez le titre de la brochure. Eh bien, merci. Je crois que la chanson, j'ai essayé de chercher rapidement en cherchant les paroles. J'ai trouvé un groupe qui s'appelle Blackbird Raum, qui reprend une chanson qui s'appelle Ader Version A2DER. Je pense que c'est ça. Si tu nous écoutes et que tu peux nous donner la référence, c'était très beau le chant. Et je pense que ça vaudrait même le coup de traduire les paroles parce que ça a l'air bien hardcore, quoi. Il y a de l'eau sur la surface de la mer entre les îles de plastique, etc. Ce serait pas mal peut-être de la traduire, je sais pas. Ça a pas l'air très très compliqué. Bon voilà, en direct, je crois que j'ai trouvé ce groupe-là, mais ça m'a pas l'air d'être exactement le même que tu nous as proposé, toi. Peut-être que pour finir, une petite touche glauque sur ton texte. Moi, ça m'a fait penser aussi à notre rapport à la mort, quoi. Tu le décris, quoi. Peut-être la psychose qui a marché au début de ce confinement. Par rapport au premier texte que tu as lu, l'histoire de responsabilité individuelle, son moteur aussi, c'était pas mal la peur de la mort, quoi, et de faire mourir ses proches. Et du coup, peut-être que là, vers la fin du déconfinement, ça dépend les coins où on habite, mais on se dit que, en tout cas, ça a été bien instrumentalisé, peut-être, je sais pas. Et que peut-être qu'on peut réfléchir à ça aussi, et notamment vis-à-vis de la technologie et de comment Andrea en parle dans son bouquin aussi, de comment on devient à la merci de la technologie. Voilà, désolé pour une analyse trop courte et improvisée surtout, et on va se quitter avec une chanson peut-être, je crois. Hein. Et
on va passer Ornette Coleman Sopsuds et... Voilà, merci beaucoup.
Et à demain. Salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et alors, on me signale que bottom, ça veut dire le fond. Et donc, il y a de l'eau. There is water at the bottom of the ocean. Ouais, il y a de l'eau au fond de l'océan. En dessous de tout ce plastique, en dessous des courants chimiques, etc. C'était la chanson qu'on a écoutée juste avant ce dernier morceau. Eh ben, salut, à demain.